Bon, alors attention, on est prêt. Moteur, ramène la 24 deuxième.
Ça s'appelle le miroir de l'âme.
Bon, alors j'ai changé le titre, hein, parce que le miroir de l'âme, c'était pas possible.
Oula.
Clap Cinéma, une émission proposée par Sylviane sur Radio Alliance Plus.
Oui, on a envie de voir, c'est sûr.
Bonjour, bonjour à tous. Alors, vous savez que le programme du sémaphore numéro 282, c'est la première fois que je donne le numéro Jean-Sylvain.
290e
programme.
Non, mais bien plus, c'est 290e depuis qu'on les numérote.
Ah,
c'est-à-dire depuis, je crois que, depuis qu'on a les 6 salles. Donc,
d'accord. Bon.
C'est marqué
numéro
290. C'est
marqué. Il allait du 13 au mars au 9 avril. Aujourd'hui, on va parler en premier des sorties du 27 mars, hein, puisque ce sont les nouveautés. Et puis, on va faire un bilan de tout ce qui est encore à l'affiche, des séances de rattrapage, de beaucoup de choses, parce que c'est toujours aussi actif au sémaphore. Alors, vous avez vu pour les sorties du 27 mars, il y en a 5. L'affaire à Beltrame, Le jeu de la reine, Los Delincuentes, Pas de vague et paternelle. Vous avez vu Pas de vague et paternelle.
Alors, j'ai vu Pas de vague et paternelle. J'ai un avis sur Le jeu de la reine, parce que c'est un film britannique qu'on a eu le plaisir d'avoir en avant-première pendant le festival. Les réactions étaient hyper bonnes, donc très classique.
Oui, on
en
voit
costume,
déjà la photo.
Voilà,
oui.
Donc, mais voilà, bien interprété, c'est assez rigolo parce que c'est un réalisateur français qui a fait le film, mais bon, c'est comme ça.
Avec l'esprit anglais.
Avec l'esprit anglais. Donc, les deux films du 27, c'est deux films qui sont complètement différents. Je commence par Paternelle, ça vous va ?
Comme vous voulez.
Alors,
comme
Paternelle,
j'ai vu aucun,
roman,
aucun des deux, alors.
De roman trop chaud. C'est un film qui tient la route grâce aux larges épaules de Grégory Gadebois et qui est un film assez sensible et sur un scénario qui que j'avais à ma connaissance jamais trop entendu parler au cinéma. C'est l'histoire de la paternité dans l'église chez les prêtres. Le pitch du film est assez simple, c'est ce Grégory Gadebois qui est un jeune prêtre et qui voit une dame tourner un petit peu autour de la sortie de l'église. Il la reconnaît bien évidemment, c'est une ancienne compagne. Avant qu'ils partent faire leurs études, ils ont eu une relation, tous les deux, et il se trouve qu'elle a eu un fils de cette relation, qu'elle ne lui a jamais dit. C'est un pré-ado qui a une douzaine d'années.
Mmh.
Et voilà. Et donc c'est tout 11 ans il a exactement. C'est tout le questionnement. Comment fait-on pour à la fois assurer sa vie antérieure et avec les convictions religieuses qui s'accompagnent de la vie de prêtre. Donc voilà, donc c'est un film, moi je trouve ça assez intéressant, extrêmement bien joué par
Grégory Gadebois,
qui est de tous les plans.
Acteur.
Voilà. Et je pense que s'il n'y avait pas Grégory Gadebois, le film aurait moins d'intérêt. Voilà, donc ça a l'avantage de soulever la question. Une autre question, on parle quelquefois de l'Église de manière négative avec tout ce qui s'est passé au niveau maltraitance, qu'il faut bien évidemment traiter. Et je trouve que quand on voit de l'humanité chez ce personnage interprété par encore une fois par Grégory Gadebois, on se dit que on comprend pourquoi il y a des gens qui prêtent tant d'attention à l'Église, à la religion, quelle qu'elle soit d'ailleurs, et qui ne sont pas forcément des extrémistes, mais des gens qui sont bien sûr bons, qui ont envie d'aider les autres et tout ça. Donc voilà, c'est une petite piqûre de rappel.
Et pourquoi elle ne lui a pas dit pendant 11 ans ? Et pourquoi
Parce que lui partait, elle fuyait une vie pas très facile. Et lui partait faire ses études en confession, donc ils ne se sont plus revus. Et puis lui, c'était bien clair que c'était prêtre qui voulait faire, c'était dit dans leur relation, il a jamais rien caché.
D'accord.
Donc voilà, donc il essaye de trouver une solution.
Ah ben ça peut être intéressant. C'est un peu tôt dans l'émission, mais je vous propose qu'on écoute la bande-annonce, parce que ça doit soulever des questions.
Père très saint,
Tu as voulu que la croix de ton fils soit source de toute bénédiction. Sois-nous favorables, nous qui l'avons érigé comme le signe de notre foi.
Ah non, là tu peux pas faire râteau comme ça.
Mais si.
Mais non. Voilà, là il est bon.
T'as pas une mêlée à l'écrire.
C'est bon. Louise.
Oui, ça fait longtemps. C'est ton fils.
C'est le tien aussi.
Pourquoi tu m'as rien dit?
J'étais à Montréal quand je l'ai su. T'allais devenir prêtre. J'aimerais que tu reconnaisses Aloé, à l'état civil.
On peut dormir chez toi parce qu'il est nul, l'hôtel.
Hein? Ben non. J'ai des responsabilités ici. Les gens me font confiance.
C'est ici où t'habites?
T'as rien à faire ici. Elle est où ta mère?
Tu comptais me le dire quand? Tu sais ce que ça implique d'avoir un enfant?
Enfin, Simon, y a des règles à respecter.
11 ans que je fais tout pour lui, que je bosse comme une malade, là, au bureau, à la maison, hein, que je fais en sorte qu'il soit heureux. Pourquoi? C'est pas possible.
Parce que je suis prêtre. C'est ma vocation.
Pourquoi tout le monde t'appelle mon père? Et moi, je peux même pas t'appeler papa.
Il est malin, ce gamin. Il a besoin de toi.
J'ai consacré ma vie à Dieu. Qu'est-ce que vous attendez de moi?
Il n'y a pas de retour en arrière. C'est la volonté de Dieu.
La paternité spirituelle des fidèles et l'éducation d'un fils est incompatible.
Mon intérêt personnel aurait dû passer après celui du fidèle.
Et l'intérêt d'Aloé? Avant ou après la communauté? Vous ne pouvez pas me forcer à cacher mon fils.
Alors, l'autre sortie, c'est également un film français, vous l'avez dit, Pas de vagues, Teddy Lucie Modeste, avec François Civil. Il est partout, hein, François Civil.
Ouais,
hein,
c'est vraiment
l'acteur qui monte. Hein.
Il monte, ce jeune homme. Mmh. Alors, Pas de vagues, c'est
les... C'est toujours dans les milieux de professoral. Hein.
Voilà, mmh. c'est toujours Pas de vagues dans l'éducation nationale. C'est l'histoire d'un professeur qui a tout ce qu'il y a de plus normal dans un collège, qui essaye d'intéresser ses enfants, ses élèves, au français, parce qu'il est professeur de français, et il prend dans un moment d'échange avec ses élèves, fait référence à une jeune fille qui est timide dans sa classe, et ça fait tout un esclandre,
parce qu'elle
pense qu'il a, voilà, mmh. elle est complètement tellement introvertie qu'elle se sent agressée par ça. Elle se confesse à son grand frère, et son grand frère qui est une petite frappe,
qui l'interprète
mal, qui veut porter l'affaire à la presse, tout ça, donc il y a une espèce de semi-emballement, et le proviseur de ce lycée de banlieue parisienne veut surtout pas faire de vagues, donc c'est tiré d'une histoire vraie, malheureusement. Donc on voit ce prof qui est livré à lui-même, quasiment tout seul. Heureusement qu'il y a un petit peu la solidarité de ses collègues qui viennent l'aider, mais on voit les dégâts et l'emballement que peuvent faire les réseaux sociaux, parce que tout se passe bien évidemment par internet. Le prof il a dit ça, le prof il a fait ça, l'élève elle a fait ci, le grand frère il a fait ça, voilà.
Pas, ça y est, voilà. Ça s'emballe.
Donc
c'est un film à voir qui pose
problème. Alors j'ai un petit bémol sur le film quand même, c'est que je trouve qu'il y a un problème, c'est l'absence complète des syndicats d'enseignants, qui sont quand même assez présents dans le milieu de l'éducation nationale. Le mot syndicat n'est pas prononcé une seule fois pendant le film. Donc c'est directement le proviseur ou l'avocat. Donc voilà, je sais pas, c'est tiré d'une histoire vraie. Peut-être qu'effectivement, il n'y avait pas de représentation syndicale, mais voilà, c'est une question que je soulève.
À l'heure
où on parle du mal-être, des non-remplacements, je pense que la situation de prof en collège, notamment dans les banlieues, c'est vraiment pas facile. Il faut peut-être se questionner là-dessus.
Alors, il y a un autre film qui parle des professeurs, c'est le film allemand La Salle des Profs, mais
qu'on a arrêté juste avant.
Mais peut-être que vous le mettrez en séance de rattrapage, parce qu'il interpelle beaucoup aussi La Salle des Profs. Mais il y a des séances de rattrapage, alors on peut peut-être en parler là. Le dernier des Juifs, le 30 mars, 18h45, il y a eu... Agnès Jaoui, elle a eu une récompense pour l'ensemble de sa carrière. On la voit là dans Le Dernier du Juif. On la voit aussi dans La Vie de ma mère, pareil, jusqu'au 26 mars. Mais là, ce n'est pas un rattrapage. Eman, de Kei Ishikawa, le lundi 1er avril, 15h40.
C'est jour férié.
La zone d'intérêt, de lundi 1er avril, 18h40 aussi.
Jonathan Glazer qui a dit un peu des bêtises, je pense, au moment des Oscars, mais c'était sous presse, donc voilà, faites-vous votre avis avec son film et ses discours, qui sont peut-être quand même un petit peu aussi déplacés, exagérés avec les médias et le rapport avec le malheureux conflit israélo-palestinien. Voilà, je pense qu'il y a des raccourcis qui vont un peu trop vite.
Mais bon, ça n'empêche pas de voir le film, peut-être.
Il faut voir le film.
Le théorème de Marguerite, qui a eu un grand succès. Hein. Au début, on pensait que c'était un film un peu peu intimiste. Et puis, en fait,
je pense que sur le théorème de Marguerite, je dois être à la 4e séance de rattrapage. Parce que c'est systématiquement plein. Mmh. Ce film a un bouche à oreille. On parle pas souvent des maths au cinéma. Et voilà. Donc,
Et puis, il y a le 31 aussi, le règne animal.
Règne animal, magnifique.
Vous en aviez parlé longuement parce que vous avez beaucoup aimé ce film.
Toujours quelques séances d'anatomie d'une chute aussi, par-ci, par-là,
jusqu'au 9 avril. Ouais. C'est vrai que ça a eu un succès. Moi, je ne m'attendais pas à un tel succès à ce film. C'est un excellent film, mais...
Je pense qu'à ces hauteurs comme ça, personne s'y attend, parce que c'est...
Après, il y a tout le travail pour faire la promotion du film aussi.
Ouais, et puis c'est vrai qu'il y a... Il y a les professionnels qui parlent du film, les journalistes, les récompenses, mais c'est le public. Mmh. C'est-à-dire que le public continue à venir le voir, donc c'est le public qui fait le succès du film. Hein.
Alors, on va écouter la deuxième bande-annonce d'un film français avant de revenir sur les autres sorties.
On a parlé de séduction, qui passe par la flatterie. J'essaye de créer un lien avec eux. On étudieront ça. Par exemple, avec cette nouvelle coiffure, Leslie est particulièrement en beauté aujourd'hui. Qu'est-ce que je suis en train de faire ?
Le poème parle d'amour, de séduction, de désir.
Le profit veut gérer Leslie, le profit veut gérer Leslie.
Qu'est-ce que je dois faire, moi ?
Le profit veut gérer Leslie, le profit veut gérer Leslie. Bonjour.
Tu pourrais passer me voir ?
Un problème ?
Non, rien de grave, mais passe me voir après.
Du harcèlement ? Quoi, je harcèle Leslie, moi ?
Moi, j'ai rien à voir avec ça, monsieur.
Mais bien sûr, personne n'a rien à voir avec ça, évidemment.
Il a dit qu'elle était fraîche.
Mais oui, Leslie, enfin, je parlais de l'eau.
Sauf qu'il l'a dit en me regardant dans les yeux.
C'est quoi cette histoire ? Moi, j'ai rien fait de tout ça.
Ça t'arrive à toi, c'est qu'il y a une raison.
On parle pas de procès, là, c'est juste une enquête.
La petite, elle a porté plainte, je te rappelle.
T'es accusé de harceler une gamine.
Il se comporte mal avec ma sœur. Vous trouvez ça normal ?
Je comprends pas ma note. Oh. Vous voulez aussi vous venger sur nous, hein ?
Écoutez, son frère m'a explicitement menacé de mort.
Mais qui va te protéger ? Ton directeur ? Ton école, là, le rectorat qui répond même pas au téléphone ?
Il y a des parents d'élèves qui veulent interpeller la presse.
Si tu mens, Leslie.
Enfin, nous, on prend des risques en te faisant confiance.
Je te tue.
Vous arrêtez les téléphones !
Là, ça va trop loin. Faites encore semblant de m'aider, là, c'est ça ?
Vous devriez attendre un peu. Et si c'est le prof qui ment, je le tue aussi.
Monsieur Keller, pas de vague. On va pas prendre le risque que ça monte dans les tours.
Parce qu'on n'est pas déjà dans les tours, là ?
Alors, sur Radio Alliance Plus avec Jean-Sylvain, je crois que je ne vous ai même pas cité Jean-Sylvain, mais tout le monde connaît votre voix. Hein ?
Vous croyez ?
Oui, je crois, votre belle et profonde voix. On va revenir sur d'autres films. Alors, il y a toujours pour les enfants, hein, ça, on va arriver aux vacances de Pâques, je pense qu'on va parler peut-être des enfants plus tard.
Avec Dominique, on participe au festival Télérama, il y a plein de séances de rattrapage, de ciné-goûter, de choses comme ça. Donc Dominique
vous parlera le prochain Club Cinéma, ce sera avec Dominique pour les enfants. Alors, je reviens en arrière, les films, il reste encore demain.
Il y a un certain nombre de films. C'est vrai que comme l'actualité ces dernières semaines était pour nos amis anglais, et c'est bien mérité, il y a un ou deux films dont j'aimerais bien parler, dont ce merveilleux film italien qui s'appelle Il reste encore demain, qui est un film de femme de Paolo Cortellesi, et elle l'a réalisé et elle joue dedans. Et donc c'est un comeback dans les années 40 en Italie, et c'est l'histoire d'une mère de famille qui se bagarre contre l'agression quasi permanente de son mari, qui sort en ville pour picoler, qui la frappe, qui dit qu'elle a jamais assez d'argent, voilà, qui s'occupe mal de son père qui est mourant et qui habite à la maison. Donc cette pauvre femme, elle doit s'occuper de la maison, de son mari, de son beau-père, de ses enfants.
Sans aucune reconnaissance, bien évidemment.
Voilà, et puis il faut qu'elle garde le sourire, qu'elle soit jolie, enfin voilà. Ouais. Donc c'est un film qui dénonce de manière très intelligente. Alors il ne faut pas que je vous raconte le pitch, parce qu'il y a un retournement à la fin du film film qui est, que je trouve assez, assez, assez agréable. La presse n'a pas été très gentille en France avec le film. Je ne sais pas pourquoi, notamment Télérama, ils ont craché un peu dans la soupe. Moi, je trouve ce film formidable. C'est un noir et blanc. On a l'impression de retourner en Italie avec les films de Vittorio De Sica, vous savez, très avec les enfants qui courent partout.
Mais moi, j'ai lu beaucoup de choses. On disait au contraire qu'il faisait son chemin, ce film, justement, en dehors des critiques.
Voilà. Et ça, c'est bon parce que, encore une fois, j'aime bien quand c'est le public qui choisit et qui fait son choix. Donc, puis, un beau film italien qui parle de la condition de la femme et qui parle de la condition de la femme dans les années 40 en Italie, mais qui ça fait du bien de continuer à parler toujours de la condition de la femme.
Alors, vous parliez des écrans britanniques. Là aussi, j'ai lu, on parle des critiques. Scandaleusement vôtre, qu'on attendait avec beaucoup d'impatience, parce qu'il y a Olivia Colman, et puis c'est humour anglais. J'ai vu des critiques partagées, disant que c'était un peu trop des grosses ficelles, que le scénario n'était peut-être pas assez abouti, que...
Oui, on peut toujours dire ça. On a le droit aussi d'avoir quelque chose de léger sur un sujet qui est aussi regarder son voisin, l'étroitesse d'esprit, et ce genre de choses. Et moi, je trouve que le personnage joué par la jeune Irlandaise qui bouscule tous les préjugés col coincé britannique, moi, ça me fait rire. Elle roule dans les brancards, elle s'occupe toute seule d'une fille, elle a un amant qui est noir et qui écoute du jazz. moi, ça fait bouger les lignes, pour moi, c'est hyper important. Et elle le fait avec le sourire et sur des choses qui sont justes. Donc, je trouve ça très bien.
Alors, Une famille, c'est le film d'après le livre Christine Angot. On en parle beaucoup. Bon, l'inceste, c'est un problème très grave. Et surtout le silence, la chape de silence. Vous l'avez vu, elle est venue, Christine Angot, une avant-première.
Christine Angot est venue. Alors, on ne peut pas dire que j'ai eu la chance, parce que c'est vrai que c'est un personnage qui comme son écriture, assez sec, et le sujet est tellement difficile qu'on en ressort, même quand on accompagne la réalisatrice qui vient de parler de ce qui lui est arrivé devant tout le monde. Il y a bien évidemment de l'émotion, une fragilité qui s'en dégage. Mais c'est un personnage qui, à mon avis, est un petit peu maltraité. D'ailleurs, c'est assez dit dans la bande-annonce. C'est un journaliste de France Inter, je crois, qui dit ça, que Christine Angot a été quand même hyper maltraitée par les journalistes qui s'occupent des livres. Alors là, c'est pas un film tiré d'un de ses livres.
C'est un
film qui prend racine. Elle est invitée à Strasbourg pour une dédicace pour un festival littéraire. Et il se trouve que malheureusement, l'inceste commis par son père a démarré dans la ville de Strasbourg. Donc elle va retrouver sa belle-mère, donc la deuxième femme de son père, et elle essaye de d'y voir un peu plus clair, d'essayer d'avoir des réponses à ses questions. Et du coup, elle prend la caméra et elle interroge du coup tous les membres de sa famille. Donc c'est pour ça que ça s'appelle Une famille. Donc ça commence à Strasbourg avec sa belle-mère, sa mère à elle suit, son ancien mari quand elle était à Montpellier. Voilà, donc c'est bouleversant, parce qu'on découvre devant la caméra des choses qui se passent que je peux pas raconter au micro, parce que ça monte petit à petit. C'est un film difficile, un film dur.
Oui, on sort de là.
J'imagine que des femmes qui ont connu l'inceste et même des hommes peuvent être terrifiées, mais je pense que c'est nécessaire que grâce à la parole et à l'intelligence, on arrive à vivre et à essayer de se relever.
Et puis ce qui est étonnant, justement, de passer de l'écriture à la caméra, et j'avais lu pas mal d'articles, qu'est-ce que lui apporte la caméra en plus, en fait, elle est confrontée à la personne en face d'elle, et c'est vrai que c'est très, très éprouvant, et puis il y a toujours beaucoup de cas d'inceste, donc c'est excessivement important de continuer d'en parler.
C'est difficile de faire des suites avec un sujet aussi...
Oui, on est ému, on est... Alors, nous allons parler de l'avant-première du jeudi 4 avril, puisque là, on a parlé de Christine Angot qui est venue en avant-première. Là, on a José Bové et le réalisateur d'Une affaire de principe qui vient en avant-première le jeudi 4 avril.
Oui, Antoine Rimbaud, j'ai découvert le film il y a quelques semaines. Une affaire de principe, ça se passe au moment où José Bové est député européen. et une machinerie que j'avais complètement oubliée, et il démonte un peu c'est Barroso qui est président de l'Europe à ce moment-là, et il y a des magouilles avec nos chers amis qui s'occupent du tabac, c'est-à-dire British Tobacco et tout ça, et Philip Morris. Donc voilà, donc il y a une espèce de combinaison, de combine avec du fric, des faux rapports et des enveloppes. Et José Bové et sa joyeuse bande d'acolytes parlementaires essayent
de dénoncer
tout ça. Donc c'est pas un documentaire, hein, José Bové est interprété par Bully Lanners. D'ailleurs, quand j'ai vu José Bové après avoir vu le film, et on se dit, mais c'est vraiment, il n'y a que lui qui pouvait faire
moi,
ça.
Moi, j'ai vu que la bande-annonce, j'ai trouvé que Bully Lanners, qu'on voit toujours un peu comme un gros père, est étonnant.
Il a maigri, là, il a.
C'est un autre José Bové.
Voilà, alors on a la chance, José Bové, quand même, qui vient au Sémaphore, c'est pas mal, le 4 avril, et le film sort après le 1er mai.
Donc toujours ces réalisations, et j'ai envie de parler aussi, puisqu'il y a au théâtre de Nîmes Philippe Torreton qui vient pour sa pièce Ladzi.
Ouais.
Et pour une carte blanche, en fait, il vient présenter Le Fils de Saul de Laszlo Némès le 30 mars à 16h, une séance unique. Donc c'est l'occasion de rencontrer Philippe Torreton, lui demander pourquoi il a choisi ce film qui est d'actualité en comparant avec la zone d'intérêt, en fait. Ouais, c'est un film très dur, Le Fils de Saul.
C'est un film très dur sur la représentation des capots dans les camps de concentration.
Oui. Et puis ces images volées dans les camps de concentration.
On lui posera la question. C'est lui qui a l'équipe du théâtre l'avait interrogé. Il a dit oui, bien sûr, comme il joue deux jours, vendredi et samedi soir, j'ai le temps de venir et j'aimerais bien présenter un film, parce qu'il aime quand même beaucoup le cinéma. Donc,
ouais. Bah, il a beaucoup joué dans le cinéma aussi.
Ouais,
c'est lui qui fait jouer dans Capitaine Conan, non ?
C'est lui qui joue le Capitaine Conan.
Et oui, je l'avais vraiment découvert comme acteur dans le Capitaine Conan. Il avait une force absolument incroyable.
Bertrand Tavernier, c'est ça. Voilà, on a un autre rendez-vous avec le théâtre aussi le 2 avril, parce que c'est un de nos partenaires, avec un film que j'aime beaucoup, qui s'appelle L'Astragale. Et c'est un miroir, comme on dit, avec le spectacle Sarrazine de Nelly Poulicani, qui est comédienne et qui vient le 2 avril au Sémaphore.
Voilà. C'est toujours bien de faire des liens justement entre théâtre, cinéma, entre les arts vivants. Bon, j'avoue que L'Astragale, pour moi, c'est Marlène Jobert. C'est le film très ancien.
Oui, c'est un remake. Pas. Il y a Lilia Becti et Rachida Kateb qui sont quand même bien.
Il y a une nouvelle génération. Il y a une nouvelle façon. Mais c'est vrai que moi, Torreton, je l'ai découvert dans Capitaine Conan et Marlène Jobert dans L'Astragale. Donc c'est comme ça qu'on se fait une culture cinématographique, si on peut dire. Alors il y a beaucoup d'autres choses. Moi, je suis curieuse de ce film Bis Repetita. Là, vous ne l'avez pas vu sur
de
latin. Triché constamment et sont appelés pour gagner un
prix. Ça donne envie. Il y a des enseignants qui m'appellent et qui me disent : vous croyez qu'on peut venir avec nos enfants ?
C'est l'apologie de la triche, quoi.
Ouais. Mais c'est une comédie. Il faut de temps en temps rigoler un petit peu. Ouais.
Ça peut faire rire. Bon, beaucoup plus dur, Les Chroniques de Téhéran. J'ai vu les bandes annonces. L'absurde poussé.
Le film est remarquable. Mais c'est je ne sais pas comment ce pays tient encore, parce que c'est intenable, la pression qu'il y a sur la population, mais pour des bêtises, pour des choses qui se... vous verrez, ça se passe face caméra, et c'est des personnages qui sont filmés dans la bureau de la police, mais des situations, on se dit, mais c'est pas possible, c'est pas un documentaire, ça peut pas exister, c'est des acteurs, c'est écrit. Mais non, parce que le problème, c'est qu'il y a tellement de choses contrôlées, c'est que ça a pu sortir d'Iran parce que c'est réel. Voilà. Et les bras nous en tombent quand on regarde le film. Donc cette population, le jour où ça va éclater là-bas, ça va être terrible, terrible, terrible.
Ouais. Donc il y a beaucoup de films. On va peut-être finir par le ciné-club de La Contemporaine. Hein, tout le monde sait que La Contemporaine de Nîmes commence début avril, le 4, 5, 6 avril.
C'est le 6 avril. Alors si vous me permettez...
Allez-y.
Si vous me permettez... Quand même, un petit hommage, jeudi 5 avril, 18h15, dans la série Western, présentée par Claude Aziza, il y a Le Grand Silence de Corbucci avec Jean-Louis Trintignant.
Ah,
Ça, c'est quasiment loupé, pas loupé. Voilà, voilà. Klaus Kinski, Jean-Louis Trintignant, je crois qu'il doit dire deux phrases en italien dans le film.
Ah, ouais.
Donc, donc voilà. Donc ça, c'est à 18h15 le vendredi 5 avril. Mmh. Et effectivement, la contemporaine, le sémaphore fait partie de la des lieux partenaires de la contemporaine avec. Un court-métrage de 20 minutes de Ryan McCarthy qui s'appelle La Promesse. C'est le samedi à 16h et on a un ciné-club de la contemporaine qui va défiler tout le mois d'avril et le mois de mai jusqu'à mi-juin.
Donc avec sur deux programmes, voilà, en fait, sur les deux programmes suivants.
Sur avec 5 rendez-vous et on va parler du teen movie, des films pour les jeunes. Ce sera le vendredi à 20h30.
Oui, les jeunes, bon, peut-être qu'ils ne viennent pas énormément, encore que pour Dune, ils sont venus tout de même, les jeunes.
Ils sont là. En VO, ils sont
oui. Et puis les scolaires, hein. Moi, chaque fois que je viens le matin, il y a des scolaires. Hein. Il ne faut pas oublier combien la population scolaire vient au cinéma.
Et oui, pas... c'est la formation pour nos futurs spectateurs, bien
oui,
sûr.
Et puis les avec Stanislas, avec tout, voilà, c'est formation du cinéma. Et
puis on a la chance. Il y a des classes cinéma à Philippe Lamour, à la Saint-Sta. Il y a énormément de profs qui servent du cinéma comme base. Le lycée d'Odé à côté qui vient très régulièrement. Non, il y a plein de choses, bien sûr.
Et puis on voit combien l'Occitanie devient une terre de plus en plus importante de tournage. Donc voilà. Ouais. Il faut avoir l'espoir, c'est même pas de l'espoir, c'est de la réalité, quoi, ça.
Ben, il faut se battre pour le lendemain, hein. on peut faire un parallèle avec l'écologie. Si on se bat pas maintenant pour demain, ben
c'est
voilà,
l'avenir là,
c'est l'avenir
voilà,
ouais.
Qui sera perdu ou pas bien. Merci à vous, Jean-Sylvain.
Merci,
et donc le prochain, ça sera pour donc les vacances de Pâques et les enfants, puis on se revoit après. Merci à vous.
Merci.